Radio Cité Genève.
Genève internationale. Épiphanie Monfo.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être à l'écoute de ce nouveau numéro de Genève Internationale. L'heure était au bilan du côté de l'ONG Enfants du Monde qui a organisé son Assemblée Générale le 20 juin dernier à Genève. L'AG a été suivie de la présentation et d'une discussion autour du thème « Donner la vie au Burkina Faso, comment faire la différence pour les femmes enceintes grâce à la formation du personnel soignant ». Fin de citation. L'événement a permis d'en apprendre un peu plus sur les actions de l'ONG en faveur de la santé maternelle et infantile dans ce pays sahélien avec des intervenants et intervenantes de terrain. Bonjour Beata Godenzi.
Bonjour.
Secrétaire générale de l'ONG Enfants du Monde, quels auront été les enjeux de cette Assemblée générale annuelle pour une ONG comme la vôtre ?
Alors pour nous, l'Assemblée générale, c'est toujours une façon de faire le point et de participer avec nos collègues à un moment qui est vraiment, une réunion d'équipe, mais une réunion d'équipe large avec les gens intéressés qui viennent s'enquérir de ce qui s'est passé pendant l'année et de ce qu'il y a comme objectif l'année suivante, en plus de valider les budgets et de procéder, dans le cadre de cette Assemblée générale, à l'élection d'un nouveau président.
Eh bien, qui parle d'AG parle également de rapport. Quels sont les grands points justement de ce rapport 2023?
Alors, je vais peut-être en citer trois. Il y a d'abord, qu'est-ce qu'on a réalisé sur le terrain ? On touche des millions, des centaines de milliers de personnes, des femmes, des enfants, des élèves, des jeunes qui suivent les cours que l'on soutient dans l'école primaire. Donc on va rendre compte de ça et de tout ce qui bouge sur nos 10 terrains d'intervention, beaucoup en Afrique subsaharienne, mais aussi en Asie, au Bangladesh et au Népal, et puis en Amérique latine, au Guatemala. Ça, c'est un axe, les programmes, le terrain. C'est ce qui nous anime. Et puis après, il y a les aspects plus, on va dire, institutionnels. Tiens, qu'est-ce qu'on a développé comme partenaire financier ? Eh ben, on va pouvoir rendre compte qu'on a des nouveaux mandats, que la DDC, mais aussi l'Agence française de développement ou encore l'Union européenne nous ont approchés pour développer des programmes et on devient des partenaires financiers. Donc ça, c'est aussi important. Et puis, on va finalement rendre compte aussi de l'évolution interne de l'organisation. On est dans un moment de grand changement du monde, on le voit, avec des enjeux très, très complexes. Comment une organisation comme la nôtre, de taille moyenne, 25 personnes à Genève, un budget de 13-15 millions, fait pour répondre à certains défis du monde. On doit s'organiser, on doit se restructurer, on doit se doter d'outils nouveaux, digitaux. On doit repenser peut-être la stratégie financière, recherche de fonds. Voilà, on parle de tout ça en Assemblée générale.
Repenser également les statuts de l'ONG. Quels sont les principaux changements envisagés ?
Alors, je dirais que à ce niveau-là, il y a des changements, mais qui sont un peu cosmétiques. C'est plutôt une adaptation. On a un petit peu oublié les statuts dans les tiroirs. Ils sont un petit peu poussiéreux et on les rend un petit peu plus jolis. Voilà, donc c'est plus de cet ordre-là. Ce qui est important peut-être de ce qu'on a fait, c'est de mieux distinguer et mieux valoriser le rôle d'un comité aujourd'hui auprès d'une association et de sa direction pour qu'ensemble, on soit vraiment fort et doté de compétences qui nous permettent d'aller de l'avant. Ça signifie aussi clarifier les territoires respectifs et les responsabilités respectives. C'est un peu ce qu'on a fait.
Une discussion sur la santé maternelle et infantile au Burkina Faso au menu de l'événement. Quels sont les principaux défis en la matière dans ce pays auquel votre ONG est confrontée ?
Alors au Burkina, il y a énormément de défis, on le sait. Les médias rendent compte de la situation très volatile de ce pays qui a été au niveau du pouvoir passablement malmené, où il y a des conflits, il y a des tensions, et du coup ça veut dire beaucoup de déplacements de population à l'interne. Et qu'est-ce que nous faisons dans ce contexte-là ? Eh bien, on aide à sécuriser des droits de base que sont la santé et l'éducation auprès des enfants dans le primaire pour l'éducation. Et c'est notre façon de répondre. Donc la conférence qu'on va faire est une expression en fait de notre travail dans le domaine de l'accompagnement des femmes enceintes pour qu'elles puissent donner naissance à des beaux bébés et les maintenir en bonne santé malgré des ressources rares, puisque une grande partie de la santé relève aussi de sa compréhension même du corps au niveau d'une femme en grossesse, de l'accompagnement à la naissance, qui signifie aussi un partenariat avec des professionnels de la santé.
On reste justement dans le secteur de la protection maternelle et infantile. Pourquoi vous avez choisi de vous concentrer sur la formation du personnel soignant comme stratégie d'intervention?
Alors, on a la formation, mais pas seulement, je dirais. On a la formation dans notre stratégie, on a la mobilisation des communautés et puis on a la sensibilisation, en fait, des parties prenantes, que ce soit les populations, les responsables religieux, les notables ou alors les directeurs d'école ou les responsables de centres de santé. Donc, tous ces gens-là sont concernés par nos projets, mais on forme pourquoi? Parce qu'une personne bien informée en vaut deux. Une personne bien informée devient un citoyen ou une personne en capacité d'agir sur son environnement. Et ça, c'est un peu la mission d'Enfants du Monde aujourd'hui. C'est bien sûr de travailler dans la santé et l'éducation, mais c'est de doter les enfants et leurs familles de moyens de construire leur avenir et de pouvoir influer positivement à la fois sur leur propre vie, celle de leur famille et de la communauté. Et pour ça, le savoir, donc la formation, est importante.
Quelle est l'importance d'inclure une approche pratique sur le terrain dans vos formations?
Alors, nos formations, d'une part, elles sont sur des sujets qui sont importants pour les gens. Si on prend la question de la grossesse, c'est comment je peux mieux comprendre ce qui se passe dans mon corps au moment où j'attends un bébé? Et comment est-ce que je peux savoir à quel moment consulter les centres de santé? Et comment je peux revendiquer une certaine droit à la confidentialité, au respect pendant que je suis en situation d'accouchement? Et comment je peux après profiter au mieux des ressources du centre de santé qui sont souvent peu dotées, mais qui sont là dans tous les pays du monde pour pouvoir élever mon enfant. Donc c'est dans ce sens-là que c'est important pour nous de pouvoir être très concret avec nos formations dans ce qu'elles amènent et très concret aussi en termes de ce qu'on sait déjà, ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on sait qui n'est peut-être pas adéquat. On a beaucoup de visions peut-être ou parfois des tabous culturels qui sont fondés sur des croyances anciennes mais qui n'ont peut-être plus leur raison d'être aujourd'hui, même si on respecte la raison initiale de la croyance. Donc on travaille beaucoup sur une contextualisation, on appelle ça des approches. Et dans le milieu de l'enfant, dans le milieu de l'éducation, c'est très prééminent. Donc on fait ce qu'on appelle des diagnostics communautaires avant toute chose pour comprendre ce que les gens savent des choses déjà et ce sur quoi ils veulent pouvoir travailler pour ensuite établir avec les gouvernements, avec les professionnels, avec les leaders communautaires, des programmes de formation qui font sens.
Et vous y rencontrez des réticences vis-à-vis de ces leaders communautaires ou de toute personne de la communauté locale?
Alors je dirais, c'est ça la force d'Enfants du Monde, c'est qu'on n'en rencontre pas. Pourquoi? Parce qu'on va d'abord à la rencontre. Hein. Et en allant à la rencontre, en disant, mais finalement, sur ces thématiques, qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous pensez qui est important? On construit ou le curriculum scolaire sur une thématique donnée, ou la formation de santé qui sera offerte ensuite aux femmes et au personnel de santé. Donc dans ce sens-là, je dois dire que même sur des sujets extrêmement sensibles, tels que la santé sexuelle, la question des menstrues, la question de l'excision, voilà celles qui me viennent en tête, on rencontre plutôt une solidarité. Tous les peuples du monde veulent finalement, d'une part, être le plus en paix avec leurs collègues et avec leurs voisins et aussi être en meilleure santé. On comprend en fait ces aspirations-là et donc on peut dépasser parfois des choses qui sont présentées comme des no-go en voyant qu'avec la discussion et l'orientation des communautés, on peut les aborder de la bonne façon pour que ce ne soit pas considéré comme externe, intrusif, voire dévalorisant. C'est vraiment la force d'Enfants du Monde, c'est d'être allié des populations avec lesquelles on travaille.
Sélectionner ces populations, ces régions et les établissements de santé dans lesquels vous intervenez ou pour lesquels vous intervenez.
Alors là, c'est un processus qui engage notamment les autorités sanitaires aussi, mais les qui nous demandent de voir quels sont les indicateurs santé ou les indicateurs en termes d'alphabétisation et puis aussi les ressources qu'il y a dans ces différents domaines. Local, les autres partenaires peut-être de coopération qui sont déjà sur place, les besoins, Et puis aussi, puisque c'est très important pour Enfants du Monde aussi, de s'inscrire dans des logiques de politique publique. On oublie souvent que tous ces États qui sont sous le joug des difficultés, ils ont beaucoup de personnes, des professionnels dans l'administration qui continuent à travailler, qui sont hors du politique et qui veulent faire le meilleur. Eux, ils planifient, ils anticipent avec les moyens du bord. Et donc avec eux, on identifie les régions les plus pertinentes pour que nos programmes fassent le plus de sens pour les gens et qu'ils puissent être ensuite souvent réutilisés pour être déployés plus largement ou ailleurs.
Vous prévoyez d'étendre vos programmes de formation à d'autres pays ou régions en 2024? Si oui, avec quels critères sélectionnez-vous ces nouvelles zones d'intervention?
Alors là, nouveau, on en parlait en réunion ce matin, on est dans une dizaine de pays. On est plutôt dans une phase de difficultés financières, comme dans d'autres ONG. Les partenaires principaux financiers, notamment la DDC, réduisent ses budgets, donc ça nous impacte. Donc on est plutôt dans une phase un peu comme le malade qui prend soin de lui tout tranquillement dans sa maison. Et puis, une fois qu'il est un peu rétabli, il va aller voir ailleurs. Donc pour l'instant, on est dans cette phase-là. Mais quand on va voir ailleurs sur les mêmes éléments que je vous donnais, à savoir le besoin des gens, la qualité du partenaire qu'on a du ministère de l'Éducation ou de la Santé, et puis la qualité des partenaires opérationnels qui sont nos collègues des ONG locales, parce que ce sont eux qui travaillent. Nous, on fait un soutien presque subsidiaire en termes d'expérience en pédagogie, en santé, de financement, de gestion. Et bien, quand on a tout ça qui est là, il y a l'autre élément clé qui est l'opportunité de financement, parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens pour opérer partout sur nos fonds propres. Donc il faut voir que ça puisse être soutenu par quelqu'un. Une fois quand on a tout ça, ça décidera du pays où on pourra aller. Alors bien sûr, comme on est déjà en Afrique de l'Ouest, on a une meilleure connaissance de ce terrain-là, donc on serait peut-être plutôt appelé à aller continuer dans ce cadre-là. On est aussi en Amérique latine, au Guatemala, si on élargit, c'est un petit peu autour de ça. Il faut qu'on ait une réflexion à la fois organisationnelle et programmatique pour nous décider à aller ailleurs.
Et la DDC vous dit pourquoi les moyens sont réduits en ce moment?
Alors, vous connaissez le débat politique en Suisse. Je crois qu'il y a une tendance très forte à, d'une part, à questionner la coopération internationale avec des tendances, on va dire, populistes ou de partis qui ne valorisent pas le rapport à l'altérité, à l'autre, et qui sont plutôt sur un repli sur soi. Et puis, il y a un effet boomerang inverse qui est plutôt une grande solidarité que la Suisse a pu démontrer récemment, notamment à l'Ukraine, et qui prend une proportion, non pas disproportionnée, parce que les besoins de l'Ukraine sont énormes, mais extrêmement impactante sur la capacité du coup de la Suisse de financer d'autres solidarités, notamment dans les pays du Sud. Et on ne met pas l'un contre l'autre, mais on constate que l'un, pour l'instant, fait ombrage sur l'autre, avec les risques de délaisser des rapports de coopération qui permettent de maintenir un cadre, je dirais, de développement plus large et quelque part indirectement une paix dans le monde. Donc c'est un petit peu la situation de la DDC qui aujourd'hui réduit ses moyens pour les ONG et pour elle-même.
Et vous trouvez ça dommageable?
C'est extrêmement dommageable que les pays du Sud ne puissent plus être considérés. Il y a l'effet médiatique, bien sûr que la situation ukrainienne requiert toute notre attention. Bien sûr, tout comme la situation de Gaza qui est horrible et est condamnable quant aux partis qui la mettent dans cette situation, sont extrêmement médiatisés. Nous avons combien de conflits peu médiatisés qui continuent à exister et qui touchent peut-être plus de personnes. Plus d'enfants meurent, plus d'enfants sont déplacés ailleurs que dans, je dirais, les deux cas que je vous nomme, qui restent par ailleurs extrêmement importants à promouvoir et à transformer.
Avant de mettre un terme à notre entretien, Beata Godenzi, l'univers de l'humanitaire est confronté ces dernières années à de graves problèmes liés au financement, vous venez de le dire, à la multiplication des zones de tension et de conflit, vous l'avez également souligné, ajouté à cela des défis sécuritaires du personnel. Comment arrivez-vous à y faire face? Est-ce qu'il y a des projets prioritaires sur d'autres, justement en rapport avec ce que vous venez de dire?
Alors bien sûr, on fait un exercice chaque année, mais on le fait avec encore plus d'acuité cette année, de reconsidération des priorités pour chacun de nos programmes. Et comme je le disais précédemment, le programme est le plus important à défendre, à sécuriser financièrement, s'il a le plus d'impact, s'il se déroule avec un partenariat tant avec le ministère qu'avec la société civile, comme on appelle ça, de qualité. Et là, ce sont des éléments qui nous permettent de prioriser pour des recherches de financement et des poursuites. Certains projets, dans des situations telles qu'on la vit aujourd'hui, doivent être mis en veille. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne les financera pas demain, parce que demain est un autre jour et le malade qui est parfois très mal mais bien soigné pourra demain de nouveau aller offrir ses ressources ailleurs, et c'est ce qu'on espère pour Enfants du Monde.
Toujours avec le sens de la formule, merci à vous Beata Godenzi, secrétaire générale de l'ONG Enfants du Monde. Merci également à toutes et à tous. Belle suite de journal écoute de notre antenne Radio Cité Genève 92.2 FM. Entretien à retrouver ainsi que les autres sur le site radiocité.ch. À tout bientôt.
Au revoir et très belle journée.